diable au corps, 3. La saveur du premier baiser m'avait déçu comme un fruit que l'on goûte pour la première fois. Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs. Quelques minutes après, non seulement j'étais habituée à la bouche de Marthe, mais encore je ne pouvais plus m'en passer. Et c'est alors qu'elle parlait de m'en priver à tout jamais. Ce soir-là, Marthe me reconduisit jusqu'à la maison. Pour me sentir plus près d'elle, je me blottissais sous cape et je la tenais par la taille. Elle ne disait plus qu'il ne fallait pas nous revoir. Au contraire, elle était triste à la pensée que nous allions nous quitter dans quelques instants. Elle me faisait lui jurer mille folies. Devant la maison de mes parents, je ne voulus pas laisser Marthe repartir seule et l'accompagnai jusque chez elle. Sans doute, ses enfantillages n'eussent-ils jamais pris fin, car elle voulait m'accompagner encore. J'acceptais, à condition qu'elle me laisserait à moitié route. J'arrivai une demi-heure en retard pour le dîner. C'était la première fois. Je mis ce retard sur le compte du train. Mon père fit semblant de le croire. Plus rien ne me pesait. Dans la rue, je marchais aussi légèrement que dans mes rêves. Jusqu'ici, tout ce que j'avais convoité, enfant, il en avait fallu faire mon deuil. D'autre part, la reconnaissance me gâtait les jouets offerts. Quel prestige aurait pour un enfant un jouet qui se donne lui-même? J'étais ivre de passion. Marthe était à moi. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'était elle. Je pouvais toucher sa figure, embrasser ses yeux, ses bras, l'habiller, l'abîmer, à ma guise. Dans mon délire, je la mordais aux endroits où sa peau était nue, pour que sa mère la soupçonnât d'avoir un amant. J'aurais voulu pouvoir y marquer mes initiales. Ma sauvagerie d'enfant retrouvait le vieux sens des tatouages. Marthe disait « Oui, mords-moi, marque-moi, je voudrais que tout le monde sache ». J'aurais voulu pouvoir embrasser ses seins. Je n'osais pas le lui demander, pensant qu'elle saurait les offrir elle-même, comme ses lèvres. Au bout de quelques jours, l'habitude d'avoir ses lèvres étant venue, je n'envisageais pas d'autres délices. Nous lisions ensemble à la lueur du feu. Elle y jetait souvent des lettres que son mari lui envoyait, chaque jour, du front. À leur inquiétude, on devinait que celle de Marthe se faisait de moins en moins tendre et de plus en plus rare. Je ne voyais pas flamber ses lettres sans malaise. Elle grandissait une seconde le feu, et, somme toute, j'avais peur de voir plus clair. Marthe, qui souvent maintenant me demandait s'il était vrai que je l'avais aimée dès notre première rencontre, me reprochait de ne le lui avoir pas dit avant son mariage. Elle ne se serait pas mariée, prétendait-elle. Car si elle avait éprouvé pour Jacques une sorte d'amour au début de leur fiançailles, celle-ci, trop longue par la faute de la guerre, avait peu à peu effacé l'amour de son cœur. Elle n'aimait déjà plus Jacques quand elle l'épousa. Elle espérait que ces 15 jours de permission accordés à Jacques transformeraient peut-être ses sentiments. Il fut malhabile. Celui qui aime agace toujours celui qui n'aime pas. Et Jacques l'aimait toujours davantage. Ses lettres étaient de quelqu'un qui souffre, mais plaçant trop haut sa Marthe pour la croire capable de trahison. Aussi n'accusait-il que lui, la suppliant seulement de lui expliquer quel mal il avait pu lui faire. « Je me trouve si grossier à côté de toi, je sens que chacune de mes paroles te blesse. » Marthe lui répondait seulement qu'il se trompait, qu'elle ne lui reprochait rien. Nous étions alors au début de mars. Le printemps était précoce. Les jours où elle ne m'accompagnait pas à Paris, Marthe, nue sous un peignoir, attendait que je revinsse de mes cours de dessin, étendue devant la cheminée, où brûlait toujours l'olivier de ses beaux-parents. elle leur avait demandé de renouveler sa provision. Je ne sais quelle timidité, si ce n'est celle que l'on éprouve en face de ce qu'on n'a jamais fait, me retenait. Je pensais à Daphné. Ici, c'est Chloé qui avait reçu quelques leçons, et Daphné n'osait lui demander de les lui apprendre. Au fait, ne considérais-je pas Marthe plutôt comme une vierge, livrée la première quinzaine de ses noces à un inconnu, et plusieurs fois prise par lui de force. Le soir, seul dans mon lit, j'appelai Marthe, m'en voulant, moi qui me croyais un homme, de ne l'être pas assez pour finir d'en faire ma maîtresse. Chaque jour, allant chez elle, je me promettais de ne pas sortir qu'elle ne le fût. Le jour de l'anniversaire de mes 16 ans, au mois de mars 1918, tout en me suppliant de ne pas me fâcher, elle me fit cadeau d'un peignoir, semblable au sien, qu'elle voulait me voir mettre chez elle. Dans ma joie, je faillis faire un calembour, moi qui n'en faisais jamais. Ma robe prétexte. Car il me semblait que ce qui jusqu'ici avait entravé mes désirs, c'était la peur du ridicule, de me sentir habillée lorsqu'elle ne l'était pas. D'abord, je pensais à mettre cette robe le jour même. Puis je rougis, comprenant ce que son cadeau contenait de reproches. Dès le début de notre amour, Marthe m'avait donné une clé de son appartement, afin que je n'eusse pas à l'attendre dans le jardin, si par hasard elle était en ville. Je pouvais me servir moins innocemment de cette clé. Nous étions un samedi. Je quittai Marthe en lui promettant de venir déjeuner le lendemain avec elle. Mais j'étais décidée à revenir le soir, aussitôt que possible. À dîner, j'annonçai à mes parents que j'entreprendrais le lendemain, avec René, une longue promenade dans la forêt de Sénart. Je devais pour cela partir à 5 heures du matin. Comme toute la maison dormirait encore, personne ne pourrait deviner l'heure à laquelle j'étais partie, et si j'avais découché. À peine avais-je fait part de ce projet à ma mère qu'elle voulut préparer elle-même un panier rempli de provisions pour la route. J'étais consternée. Ce panier détruisait tout le romanesque et le sublime de mon acte. Moi qui goûtais d'avance l'effroi de Marthe quand j'entrerais dans sa chambre, je pensais maintenant à ses éclats de rire en voyant paraître ce prince charmant un panier de ménagère à son bras. J'eus beau dire à ma mère que René s'était muni de tout, elle ne voulut rien entendre. Résister davantage, c'était éveiller les soupçons. Ce qui fait le malheur des uns causerait le bonheur des autres. Tandis que ma mère emplissait le panier qui me gâtait d'avance ma première nuit d'amour, je voyais les yeux pleins de convoitise de mes frères. Je pensais bien à le leur offrir en cachette, mais une fois tout mangé, au risque de se faire fouetter et pour le plaisir de me perdre, ils eussent tout raconté. Il fallait donc me résigner, puisque nulle cachette ne semblait assez sûre. Je m'étais juré de ne pas partir avant minuit, pour être sûr que mes parents dormissent. J'essayai de lire. Mais comme 10 heures sonnaient à la mairie et que mes parents étaient couchés depuis quelque temps déjà, je ne pus attendre. Ils habitaient au premier étage, moi au rez-de-chaussée. Je n'avais pas mis mes bottines afin d'escalader le mur le plus silencieusement possible. Les tenant d'une main, tenant de l'autre ce panier fragile à cause des bouteilles, j'ouvris avec précaution une petite porte d'office. Il pleuvait. Tant mieux. La pluie couvrirait le bruit. Apercevant que la lumière n'était pas encore éteinte dans la chambre de mes parents, je fus sur le point de me recoucher, mais j'étais en route. Déjà, la précaution des bottines était impossible. À cause de la pluie, je dus les remettre. Ensuite, il me fallait escalader le mur pour ne point ébranler la cloche de la grille. Je m'approchai du mur, contre lequel j'avais pris soin, après le dîner, de poser une chaise de jardin pour faciliter mon évasion. Ce mur était garni de tuiles à son faîte. La pluie les rendait glissantes. Comme je m'y suspendais, l'une d'elles tomba. Mon angoisse décupla le bruit de sa chute. Il fallait maintenant sauter dans la rue. Je tenais le panier avec mes dents. Je tombai dans une flaque. Une longue minute, je restai debout, les yeux levés vers la fenêtre de mes parents, pour voir s'ils bougeaient, s'étant aperçus de quelque chose. La fenêtre resta vide. J'étais sauf. Pour me rendre jusque chez Marthe, je suivis la Marne. Je comptais cacher mon panier dans un buisson et le reprendre le lendemain. La guerre rendait cette chose dangereuse. En effet, au seul endroit où il y eut des buissons et où il était possible de cacher le panier, se tenait une sentinelle, gardant le pont de J. J'hésitai longtemps, plus pâle qu'un homme qui pose une cartouche de dynamite. Je cachai tout de même mes victuailles. La grille de Marthe était fermée. Je pris la clé qu'on laissait toujours dans la boîte aux lettres. Je traversai le petit jardin sur la pointe des pieds, puis montai les marches du perron. J'ôtai encore mes bottines avant de prendre l'escalier. Marthe était si nerveuse. Peut-être s'évanouirait-elle en me voyant dans sa chambre. Je tremblais. Je ne trouvais pas le trou de la serrure. Enfin, je tournai la clé lentement afin de ne réveiller personne. Je butai dans l'antichambre contre le porte-parapluie. Je craignais de prendre les sonnettes pour des commutateurs. J'allai à tâtons jusqu'à la chambre. Je m'arrêtai avec, encore, l'envie de fuir. Peut-être Marthe ne me pardonnerait jamais. Ou bien, si j'allais tout à coup apprendre qu'elle me trompe et la trouver avec un homme. J'ouvris. Je murmurai « Marthe !» Elle répondit « Plutôt que de me faire une peur pareille, tu aurais bien pu ne venir que demain matin. Tu as donc ta permission 8 jours plus tôt ?» Elle me prenait pour Jacques. Or, si je voyais de quelle façon elle l'eût accueillie, j'apprenais du même coup qu'elle me cachait déjà quelque chose. Jacques devait donc venir dans 8 jours. J'allumai. Elle restait tournée contre le mur. Il était simple de dire « C'est moi !» Et pourtant, je ne le disais pas. Je l'embrassai dans le cou. « Ta figure est toute mouillée, essuie-toi donc !» Alors, elle se retourna et poussa un cri. D'une seconde à l'autre, elle changea d'attitude et, sans prendre la peine de s'expliquer ma présence nocturne, « Mais mon pauvre chéri, tu vas prendre mal! Déshabille-toi vite !» Elle courut ranimer le feu dans le salon. À son retour dans la chambre, comme je ne bougeais pas, elle dit « Veux-tu que je t'aide ?» Moi, qui redoutais par-dessus tout le moment où je devrais me déshabiller et qui en envisageais le ridicule, je bénissais la pluie, grâce à quoi ce déshabillage prenait un sens maternel. Mais Marthe repartait, revenait, repartait dans la cuisine pour voir si l'eau de mon grog était chaude. Enfin, elle me trouva nue sur le lit, me cachant à moitié sous l'édredon. Elle me gronda. « C'est fou de rester nue! Il fallait me frictionner à l'eau de Cologne !» Puis, Marthe ouvrit une armoire et me jeta un costume de nuit. Il devait être de ma taille, un costume de Jacques. Et je pensais à l'arrivée, fort possible, de ce soldat, puisque Marthe y avait cru. J'étais dans le lit. Marthe m'y rejoignit. Je lui demandai d'éteindre. Car, même en ses bras, je me méfiais de ma timidité. Les ténèbres me donneraient du courage. Marthe me répondit doucement. « Non, je veux te voir t'endormir. » À cette parole pleine de grâce, je sentis quelque gêne. J'y voyais la touchante douceur de cette femme qui risquait tout pour devenir ma maîtresse et, ne pouvant deviner ma timidité maladive, admettait que je m'endormisse auprès d'elle. Depuis 4 mois, je disais l'aimer et ne lui en donnais pas cette preuve dont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieu d'amour. J'éteignis de force. Je me retrouvais avec le trouble de tout à l'heure, avant d'entrer chez Marthe. Mais, comme la tente devant la porte, celle devant l'amour ne pouvait être bien longue. Du reste, mon imagination se promettait de telles voluptés qu'elle n'arrivait plus à les concevoir. pour la première fois aussi. Je redoutais de ressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenir de nos premiers moments d'amour. Elle fut donc plus heureuse que moi. Mais la minute où nous nous désenlaçâmes, et ses yeux admirables, valaient bien mon malaise. Son visage s'était transfiguré. Je m'étonnais même de ne pas pouvoir toucher l'auréole qui entourait vraiment sa figure, comme dans les tableaux religieux. Soulagé de mes craintes, il m'en venait d'autres. C'est que, comprenant enfin la puissance des gestes que ma timidité n'avait osé jusqu'alors, je tremblais que Marthe appartînt à son mari plus qu'elle ne voulait le prétendre. Comme il m'est impossible de comprendre ce que je goûte la première fois, je devais connaître ces jouissances de l'amour chaque jour davantage. En attendant, le faux plaisir m'apportait une vraie douleur d'homme, la jalousie. J'en voulais à Marthe, parce que je comprenais, à son visage reconnaissant, tout ce que valent les liens de la chair. Je maudissais l'homme qui avait avant moi éveillé son corps. Je considérais ma sottise d'avoir vu en Marthe une vierge. À toute autre époque, souhaiter la mort de son mari c'eût été chimère enfantine. Mais ce vœu devenait presque aussi criminel que si j'eusse tué. Je devais à la guerre mon bonheur naissant. J'en attendais l'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma haine comme un anonyme commet le crime à notre place. Maintenant, nous pleurons ensemble. C'est la faute du bonheur. Marthe me reproche de n'avoir pas empêché son mariage. Mais alors, serais-je dans ce lit choisi par moi? Elle vivrait chez ses parents, nous ne pourrions nous voir. Elle n'aurait jamais appartenu à Jacques, mais elle ne m'appartiendrait pas. Sans lui, et ne pouvant comparer, peut-être regretterait-elle encore, espérant mieux. Je ne hais pas Jacques. Je hais la certitude de tout devoir à cet homme que nous trompons. Mais j'aime trop Marthe pour trouver notre bonheur criminel. Nous pleurons ensemble de n'être que des enfants, disposant de peu. Enlevez Marthe. Comme elle n'appartient à personne, qu'à moi, ce serait me l'enlever, puisqu'on nous séparerait. Déjà, nous envisageons la fin de la guerre, qui sera celle de notre amour. Nous le savons. Marthe a beau me jurer qu'elle quittera tout, qu'elle me suivra, je ne suis pas d'une nature portée à la révolte. Et me mettant à la place de Marthe, je n'imagine pas cette folle rupture. Marthe m'explique pourquoi elle se trouvait trop vieille. Dans 15 ans, la vie ne fera encore que commencer pour moi. Des femmes m'aimeront qui auront l'âge qu'elle a. Je ne pourrai que souffrir, ajoute-t-elle. Si tu me quittes, j'en mourrai. Si tu restes, ce sera par faiblesse, et je souffrirai de te voir sacrifier ton bonheur. Malgré mon imagination, je m'en voulais de ne point paraître assez convaincue du contraire. Mais Marthe ne demandait qu'à l'être, et mes plus mauvaises raisons lui semblaient bonnes. Elle répondait « Oui, je n'ai pas pensé à cela. Je sens bien que tu ne mens pas. » Moi, devant les craintes de Marthe, je sentais ma confiance moins solide. Alors mes consolations étaient molles. J'avais l'air de ne la détromper que par politesse. Je lui disais « mais non, tu es folle !» Hélas, j'étais trop sensible à la jeunesse pour ne pas envisager que je me détacherais de Marthe le jour où sa jeunesse se fanerait et que s'épanouirait la mienne. Bien que mon amour me parût avoir atteint sa forme définitive, il était à l'état d'ébauche. Il faiblissait au moindre obstacle. Donc, les folies que cette nuit-là firent nos âmes nous fatiguèrent davantage que celles de notre chair. Les unes semblaient nous reposer des autres. En réalité, elles nous achevaient. Les coqs, plus nombreux, chantaient. Ils avaient chanté toute la nuit. Je m'aperçus de ce mensonge poétique. Les coqs chantent au lever du soleil. Ce n'était pas extraordinaire. Mon âge ignorait l'insomnie. Mais Marthe le remarqua aussi, avec tant de surprise que ce ne pouvait être que la première fois. Elle ne put comprendre la force avec laquelle je la serrai contre moi, car sa surprise me donnait la preuve qu'elle n'avait pas encore passé une nuit blanche avec Jacques. Mes transes me faisaient prendre notre amour pour un amour exceptionnel. Nous croyons être les premiers à ressentir certains troubles, ne sachant pas que l'amour est comme la poésie, et que tous les amants, même les plus médiocres, s'imaginent qu'ils innovent. Disais-je à Marthe, sans y croire d'ailleurs, mais pour lui faire penser que je partageais ses inquiétudes, « Tu me délaisseras, d'autres hommes te plairont. » Elle m'affirmait être sûre d'elle. Moi, de mon côté, je me persuadais peu à peu que je lui resterais, même quand elle serait moins jeune, ma paresse finissant par faire dépendre notre éternel bonheur de son énergie. Le sommeil nous avait surpris dans notre nudité. À mon réveil, la voyant découverte, je craignis qu'elle n'eût froid. Je tâtai son corps. Il était brûlant. La voir dormir me procurait une volupté sans égale. Au bout de 10 minutes, cette volupté me parut insupportable. J'embrassai Marthe sur l'épaule. Elle ne s'éveilla pas. Un second baiser, moins chaste, agit avec la violence d'un réveil matin. Elle sursauta et, se frottant les yeux, me couvrit de baisers, comme quelqu'un qu'on aime et qu'on retrouve dans son lit après avoir rêvé qu'il est mort. Elle, au contraire, avait cru rêver ce qui était vrai et me retrouvait au réveil. Il était déjà 11 heures. Nous buvions notre chocolat quand nous entendîmes la sonnette. Je pensai à Jacques, pourvu qu'il ait une arme. Moi, qui avais si peur de la mort, je ne tremblais pas. Au contraire, j'aurais accepté que ce fût Jacques à condition qu'il nous tuât. Toute autre solution me semblait ridicule. Envisager la mort avec calme ne compte que si nous l'envisageons seuls. La mort à deux n'est plus la mort, même pour les incrédules. Ce qui chagrine, ce n'est pas de quitter la vie, mais de quitter ce qui lui donne un sens. Lorsqu'un amour est notre vie, quelle différence y a-t-il entre vivre ensemble ou mourir ensemble? Je n'eus pas le temps de me croire un héros, car, pensant que peut-être Jacques ne tuerait que Marthe, ou moi, je mesurais mon égoïsme. Savais-je même de ces deux drames lequel était le pire? Comme Marthe ne bougeait pas, je crus m'être trompée et qu'on avait sonné chez les propriétaires. Mais la sonnette retentit de nouveau. « Tais-toi, ne bouge pas » murmura-t-elle. « Ce doit être ma mère. J'avais complètement oublié qu'elle passerait après la messe. » J'étais heureux d'être témoin d'un de ces sacrifices. Dès qu'une maîtresse, un ami, sont en retard de quelques minutes à un rendez-vous, je les vois morts. Attribuant cette forme d'angoisse à sa mère, je savourais sa crainte, et que ce fut par ma faute qu'elle l'éprouva. Nous entendîmes la grille du jardin se refermer. Après un conciliabule, évidemment, Madame Grangier demandait au rez-de-chaussée si on avait vu ce matin sa fille. Marthe regarda derrière les volets et me dit « C'était bien elle !» Je ne pus résister au plaisir de voir, moi aussi, Madame Grangier repartant, son livre de messe à la main, inquiète de l'absence incompréhensible de sa fille. Elle se retourna encore vers les volets clos. Maintenant qu'il ne me restait plus rien à désirer, je me sentais devenir injuste. Je m'affectais de ce que Marthe put mentir sans scrupule à sa mère, et ma mauvaise foi lui reprochait de pouvoir mentir. Pourtant l'amour, qui est l'égoïsme à deux, sacrifie tout à soi et vit de mensonges. Poussé par le même démon, je lui fis encore le reproche de m'avoir caché l'arrivée de son mari. Jusqu'alors, j'avais maté mon despotisme, ne me sentant pas le droit de régner sur Marthe. Ma dureté avait des accalmies. Je gémissais. « Bientôt, tu me prendras en horreur. Je suis comme ton mari, aussi brutal. » « Il n'est pas brutal, » disait-elle. Je reprenais de plus belle. « Alors, tu nous trompes tous les deux. Dis-moi que tu l'aimes. Sois contente. Dans 8 jours, tu pourras me tromper avec lui. » Elle se mordait les lèvres, pleurait. « Qu'ai-je donc fait qui te rende aussi méchant? Je t'en supplie, n'abîme pas notre premier jour de bonheur. » « Il faut que tu m'aimes bien peu pour qu'aujourd'hui soit ton premier jour de bonheur. » Ces sortes de coups blessent celui qui les porte. Je ne pensais rien de ce que je disais, et pourtant j'éprouvais le besoin de le dire. Il m'était impossible d'expliquer à Marthe que mon amour grandissait. Sans doute atteignait-il l'âge ingrat, et cette taquinerie féroce, c'était la mue de l'amour devenant passion. Je souffrais. Je suppliais Marthe d'oublier mes attaques. La bonne des propriétaires glissa des lettres sous la porte. Marthe les prit. Il y en avait 2 de Jacques. Comme réponse à mes doutes, « Fais-en, dit-elle, ce que bon te semble. » J'eus honte. Je lui demandai de les lire, mais de les garder pour elle. Marthe, par un de ces réflexes qui nous poussent aux pires bravades, déchira une des enveloppes. Difficile à déchirer, la lettre devait être longue. Son geste devint une nouvelle occasion de reproche. Je détestais cette bravade, le remords qu'elle ne manquerait pas d'en ressentir. Je fis malgré tout un effort, et, voulant qu'elle ne déchirât point la seconde lettre, je gardai pour moi que d'après cette scène, il était impossible que Marthe ne fût pas méchante. Sur ma demande, elle la lut. Un réflexe pouvait lui faire déchirer la première lettre, mais non lui faire dire, après avoir parcouru la seconde, « Le ciel nous récompense de n'avoir pas déchiré la lettre. Jacques m'y annonce que les permissions viennent d'être suspendues dans son secteur. Il ne viendra pas avant 1 mois. » L'amour seul excuse de telles fautes de goût. Ce mari commençait à me gêner, plus que s'il avait été là et que s'il avait fallu prendre garde. Une lettre de lui prenait soudain l'importance d'un spectre. Nous déjeunâmes tard. Vers 5 heures, nous allâmes nous promener au bord de l'eau. Marthe resta stupéfaite lorsque d'une touffe d'herbe, je sortis un panier, sous l'œil de la sentinelle. L'histoire du panier l'amusa bien. Je n'en craignais plus le grotesque. Nous marchions, sans nous rendre compte de l'indécence de notre tenue, nos corps collés l'un contre l'autre, nos doigts s'enlaçaient. Ce premier dimanche de soleil avait fait pousser les promeneurs à chapeau de paille, comme la pluie les champignons. Les gens qui connaissaient Marthe n'osaient pas lui dire bonjour, mais elle, ne se rendant compte de rien, leur disait bonjour sans malice. Ils durent y voir une fanfaronnade. Elle m'interrogeait pour savoir comment je m'étais enfui de la maison. Elle riait, puis sa figure s'assombrissait. Alors elle me remerciait, en me serrant les doigts de toutes ses forces, d'avoir couru tant de risques. Nous repassâmes chez elle pour y déposer le panier. À vrai dire, j'entrevis pour ce panier, sous forme d'envoi aux armées, une fin digne de ses aventures. Mais cette fin était si choquante que je la gardai pour moi. Marthe voulait suivre la Marne jusqu'à la Varenne. Nous dînerions en face de l'île d'Amour. Je lui promis de lui montrer le musée de l'écu de France, le premier musée que j'avais vu, tout enfant, et qui m'avait ébloui. J'en parlais à Marthe comme d'une chose très intéressante. Mais quand nous constatâmes que ce musée était une farce, je ne voulus pas admettre que je m'étais trompée à ce point. Les ciseaux de Fulbert, tout, j'avais tout cru. Je prétendis avoir fait à Marthe une plaisanterie innocente. Elle ne comprenait pas, car il était peu dans mes habitudes de plaisanter. À vrai dire, cette déconvenue me rendait mélancolique. Je me disais, peut-être moi, qui aujourd'hui crois tellement à l'amour de Marthe, y verrai-je un attrape-nigaud, comme le musée de l'écu de France. Car je doutais souvent de son amour. Quelquefois, Je me demandais si je n'étais pas pour elle un passe-temps, un caprice dont elle pourrait se détacher du jour au lendemain, la paix la rappelant à ses devoirs. Pourtant, me disais-je, il y a des moments où une bouche, des yeux ne peuvent mentir. Certes, mais une fois ivre, les hommes les moins généreux se fâchent si l'on n'accepte pas leur montre, leur portefeuille. Dans cette veine, ils sont aussi sincères que s'ils se trouvent en état normal. Les moments où on ne peut pas mentir sont précisément ceux où l'on ment le plus, et surtout à soi-même. Croire une femme au moment où elle ne peut mentir, c'est croire à la fausse générosité d'un avare. Ma clairvoyance n'était qu'une forme plus dangereuse de ma naïveté. Je me jugeais moins naïf, je l'étais sous une autre forme, puisqu'aucun âge n'échappe à la naïveté. Celle de la vieillesse n'est pas la moindre. Cette prétendue clairvoyance m'assombrissait tout, me faisait douter de Marthe. Plutôt, je doutais de moi-même, ne me trouvant pas digne d'elle. Aurais-je eu mille fois plus de preuves de son amour, je n'aurais pas été moins malheureux. Je savais trop le trésor de ce qu'on n'exprime jamais à ce qu'on aime, par la crainte de paraître puéril, pour ne pas redouter chez Marthe cette pudeur navrante, et je souffrais de ne pouvoir pénétrer son esprit. Je revins à la maison à 9h30 du soir. Mes parents m'interrogèrent sur ma promenade. Je leur décrivis avec enthousiasme la forêt de Sénart et ses fougères, deux fois hautes comme moi. Je parlai aussi de Brunois, charmant village où nous avions déjeuné. Tout à coup, ma mère, moqueuse, m'interrompant. « À propos, René est venu cet après-midi à 4h, très étonné en apprenant qu'il faisait une grande promenade avec toi. » J'étais rouge de dépit. Cette aventure, et bien d'autres, m'apprirent que, malgré certaines dispositions, je ne suis pas fait pour le mensonge. On m'y attrape toujours. Mes parents n'ajoutèrent rien d'autre. Ils eurent le triomphe modeste. Mon père, d'ailleurs, était inconsciemment complice de mon premier amour. Il l'encourageait plutôt, ravi que ma précocité s'affirmât d'une façon ou d'une autre. Il avait aussi toujours eu peur que je tombasse entre les mains d'une mauvaise femme. Il était content de me savoir aimer d'une brave fille. Il ne devait se cabrer que le jour où il eut la preuve que Marthe souhaitait le divorce. Ma mère, elle, ne voyait pas notre liaison d'un aussi bon œil. Elle était jalouse. Elle regardait Marthe avec des yeux de rivale. Elle trouvait Marthe antipathique, ne se rendant pas compte que toute femme, du fait de mon amour, le lui serait devenue. D'ailleurs, elle se préoccupait plus que mon père du « qu'en dira-t-on ». Elle s'étonnait que Marthe pût se compromettre avec un gamin de mon âge. Puis, elle avait été élevée à F. Dans toutes ces petites villes de banlieue, du moment qu'elle s'éloigne de la banlieue ouvrière, sévissent les mêmes passions, la même soif de racontard qu'en province. Mais, en outre, le voisinage de Paris rend les racontards, les suppositions, plus délurées. Chacun y doit tenir son rang. C'est ainsi que pour avoir une maîtresse, dont le mari était soldat, je vis peu à peu, et sur l'injonction de leurs parents, s'éloigner mes camarades. Ils disparurent par ordre hiérarchique, depuis le fils du notaire jusqu'à celui de notre jardinier. Ma mère était atteinte par ces mesures qui me semblaient un hommage. Elle me voyait perdue par une folle. Elle reprochait certainement à mon père de me l'avoir fait connaître et de fermer les yeux. Mais, estimant que c'était à mon père d'agir, et mon père se taisant, elle gardait le silence.